Au hasard, Balthazar. Une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com. Le principe est tout simple. Chaque semaine, je vous lis un extrait choisi au hasard dans un livre pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est enseignement. Cette semaine, le livre qui s'est présenté, c'est « Le théâtre de la guérison » de Alejandro Jodorowsky. L'extrait sur lequel je suis tombée parle de Pachita, une guérisseuse du Mexique. Je suis donc remontée quelques petites pages plus haut pour avoir justement le témoignage de Jean-Pierre Vigneault qui a rencontré cette guérisseuse. Et juste après, le passage sur lequel je suis tombée en ouvrant au hasard le livre, c'est Jodorowsky qui parle de Pachita. Donc on commence par le témoignage de Jean-Pierre Vigneault. Au cours de ce séjour au Mexique chez lui, Alejandro, je devais rencontrer la personne la plus insolite de mon existence. À la fois l'être le plus insolite et le plus réel. Je trimbalais une déchirure musculaire à la cuisse depuis des mois. Pas une petite déchirure, non. Un truc gros comme deux poings fermés, avec un trou au milieu. J'avais cavalé pendant des semaines à Paris, de toubib en spécialiste pour qu'il me répare ça. Rien à faire. On me conseillait simplement d'arrêter toute technique de karaté parce que c'était irrécupérable. Un soir, Jodorowsky dit à sa femme Valérie qu'il serait peut-être possible de m'emmener voir Pachita, une vieille guérisseuse de Mexico. On dirait une sorcière ici. Et me voilà partie pour chez Pachita, un matin de bonne heure, avec Valérie qui porte un œuf cru dans sa main, quelque chose qui a à voir avec le traitement. Nous arrivons dans une petite rue pas large, une grande porte cochère en bois. Valérie frappe. La porte s'entrebâille sur un bonhomme à qui elle explique le but de notre visite. Il nous laisse entrer. La cour était pleine de monde, des hommes, des femmes, des enfants, d'un peu toutes les catégories sociales, mais surtout des pauvres, des Indiens, des Métis, des Mexicains très typés, les paniers, la boustifaille, les mômes attachés dans le dos et tout ça, ça discute, ça braille, ça palabre. Au fond de la cour, sur un tas de bois, un petit aigle qui fixe tout ça de son œil perçant, tranquille. Nous attendons. Au bout de 20 minutes à peu près, une porte s'ouvre dans la maison qui ferme la cour. Une petite vieille en sort, une vieille dame. Elle ressemble à beaucoup de femmes qui sont installées autour de la cour. Sauf qu'elle est très petite, grosse, large, ronde, avec un œil blanc qui a l'air de voir mieux que l'autre, de voir ce que le bon ne voit plus. Impossible de lui donner un âge. Elle aurait pu avoir 100 ans comme 50. Elle est là dans la cour, elle regarde tout le monde, elle choisit un bonhomme, lui tend une main. « Vous !» Le type se lève et la suit dans la maison. Un moment, un long moment plus tard, il ressort. Elle contemple à nouveau ces gens rassemblés et elle me désigne du doigt. « Vous !» C'est moi. Je sens que je prends comme une position mentale d'ouverture face à cette personne insolite. Je me dis « Je ne connais pas, je ne sais pas. » Donc, je m'ouvre. Elle ne pourra pas m'abîmer plus la jambe, de toute façon. Un peu étonnée tout de même de passer avant tout le monde, mais Alejandro m'expliquera qu'elle considère que les hommes doivent passer avant les femmes parce que les hommes supportent moins bien la souffrance. Les femmes peuvent attendre. Donc, j'entre derrière elle, accompagnée de Valérie qui lui explique mon cas en espagnol. Tout à coup, cette petite vieille se retourne vers moi et me fait 2 ou 3 mouvements de karaté très rapides en me regardant de son œil blanc. Là, je lui aurais donné 20 ans si on m'avait demandé son âge. Puis, elle prend l'œuf cru apporté par Valérie, le casse et m'en passe partout. Sur le visage, sur mes manches, sur ma chemise, sur mon pantalon. Ensuite, elle prend une sorte de liquide blanc dans une grande bouteille derrière elle et fait comme pour l'œuf. Me voilà entièrement badigeonnée. Elle touche ma jambe, là où percent les boules de ma déchirure. Puis elle se retourne, s'approche d'une sorte de petit autel, comme une petite crèche avec des personnages et des bougies, et elle se met à prier, à marmonner. J'écoute. Je ne comprends rien, mais j'écoute. La pièce est sombre, seulement éclairée par 3-4 bougies. Une table où les gens doivent s'allonger quand on les opère, deux ou trois assistants qui sont ici pour apprendre ou pour qu'elle leur retransmette son don, et Pachita, qui prie. Puis elle s'arrête, se dirige vers ses assistants et leur dicte une liste de produits, d'herbes, de plantes. Il donne la liste à Valérie pour moi. Je me tourne vers elle. « Et qu'est-ce que je dois donner, moi, dans tout ça ?»« Tu donnes ce que tu veux, un peso, deux pesos. » J'ai pris au hasard le premier billet dans ma poche qui représentait je ne sais combien de pesos, j'ai oublié, et nous avons retraversé la cour. Puis nous sommes allés sur un de ces grands marchés mexicains, tout en couleurs, en cris et en fébrilité, où les gens s'agitent à tel point qu'on dirait, comme en Afrique, que la chaleur ne les affecte pas. Dans ce marché assez fou, nous avons acheté tout ce qu'il fallait. De retour chez Alejandro, Valérie m'a fait une bouillabaisse de tout ça qu'elle m'a mise en cataplasme sur la cuisse. Je l'ai gardée 3 semaines. Je vivais normalement, je m'entraînais avec. Et au bout de 3 semaines, elle me l'a enlevée. Plus rien. La seule douleur que j'avais ressentie, c'est quand en enlevant le cataplasme, ça m'a arraché les poils. Ma déchirure avait disparu. Totalement. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec. Bien sûr, tous ceux qui ne l'ont pas vécu peuvent discuter ferme face à la minorité de ceux qui ont connu une telle situation. Mais Pachita m'avait réellement guérie. Ça, c'est donc le témoignage de Jean-Pierre Vigneault. Et voilà maintenant ce que dit Jodorowsky à propos de Pachita. C'est le passage sur lequel je suis tombée. Jamais je n'affirmerai que les manipulations de Pachita étaient de vraies opérations. Mais jamais je n'affirmerai le contraire. Et j'ai fini par conclure que cela n'avait pas d'importance. C'est notre croyance en un monde objectif, notre mentalité moderne soi-disant rationnelle, qui fait que ce genre de questions nous tourmente. Nous prétendons toujours nous situer en tant qu'observateurs détachés d'un phénomène supposé extérieur et dont les mécanismes doivent être clairement cernés. Dans la mentalité chamanique, par contre, ce type de problème ne se pose même pas. Il n'y a pas de sujet observateur et d'objet observé. Il y a le monde en tant que rêve grouillant de signes et de symboles, champ d'interaction où se rencontrent des forces et influences multiples. Dans ce contexte, savoir si les opérations de Pachita sont réelles ou non s'avère incongru. Quel réel ? Dès lors que l'on pénètre dans le champ énergétique de la sorcière, que l'on s'incorpore à sa réalité et qu'elle entre dans la tienne, vous évoluez tous deux au sein d'un réel où les pratiques de guérison se révèlent opérantes. Et le fait est que nombre de gens furent bel et bien guéris. En outre, si je reviens au point de vue dit « objectif », jamais je n'ai pu la prendre en défaut, jamais je n'ai pu déceler le « truc », même en me tenant juste à côté d'elle, semaine après semaine, pendant des heures. Quoi qu'il en soit, on ne peut que reconnaître le génie de Pachita. Si c'était du théâtre, quelle actrice ! S'il s'agissait de prestidigitation, cette bonne femme était le plus grand prestidigitateur de tous les temps. Et quel psychologue ! Voilà, c'était donc un extrait du théâtre de la guérison de Alejandro Jodorowsky. On aime définir et contrôler, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, mal, beau, laid, valable, pas valable. À l'intérieur de nos têtes, on légifère en permanence, à la recherche de la vérité vraie. Résultat, on doute en permanence. La recherche de certitudes absolues nous amène au doute permanent car notre mental veut savoir, vérifier, contrôler afin d'apposer le sceau de la vérité. Notre petit jeu sait mieux que les autres car il l'a vu, lu, regardé et en plus c'était certifié par l'organisme mondial de la pensée limitante. Sinon, il doit vérifier. Et si c'était faux? Et si je me trompais? Et si je faisais mal? Entrer dans le monde des sorciers, c'est accepter la pensée ronde. Tout est vrai et faux à la fois. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de doute. Tout est dans tout. La réalité est un choix de notre perception. C'est vrai parce que je l'ai décidé, parce que j'y ai mis toute mon intention, tout mon devoir croire. C'est vrai parce que cela soit vrai ou faux, n'a aucune importance. Seul compte l'action, seul compte la perception suivie d'une action. Au contact de Pachita, nous sommes alignés sur son monde. Elle chasse le doute et agit sur nous. Et ses patients sont réellement guéris. Est-ce que c'est une usurpatrice? Une tricheuse? Une tricheuse, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui compte? De connaître une vérité qui n'existe pas ou de pouvoir marcher? Parfois, on rencontre des gens qui nous alignent et nous permettent d'accéder directement à une autre vision du monde, d'entrer dans le monde des chamans. Parfois, on ne les rencontre jamais. Ce monde nous est-il fermé pour autant? Non. Il suffit de faire rentrer ce monde à l'intérieur de nous, en abandonnant le désir de contrôle, la recherche de certitudes absolues et définitives et de vérité. La vérité. La vérité est si vaste qu'elle n'est même pas concevable pour nos petits cerveaux. Thalès, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, affirmait déjà que la Terre était ronde. Et Érastotène, au 3e siècle avant Jésus-Christ, avait même mesuré sa circonférence. Ses calculs étaient déjà justes à peu de choses près. Et pourtant, en Occident, on a mis beaucoup de temps à y croire. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Notre mental traite 3000 infos par seconde, alors que notre cerveau reçoit 4 milliards d'infos par seconde. Et pourtant, on a la suffisance de croire qu'on détient la vérité, qu'avec notre petit mental, on sait ce qui est vrai ou faux, ce qui est bien ou mal. Pourtant, on continue à agir en fonction de la morale et de la loi des hommes qui, eux, savent ce qui est bon pour nous. Quelle absurdité! Entrer dans le monde des sorciers, c'est accepter que le monde est un mystère insondable et que nous faisons partie de ce mystère. C'est accepter ce mystère en nous, en permanence. C'est écouter et observer le monde, les signes, nous-mêmes, pour agir en fonction de ce qu'on perçoit et non pas de ce qu'on croit savoir. Il n'y a pas de règles, pas de certitude, pas de définitif, car seul compte l'énergie. Et l'énergie est mouvement permanent. Faire taire nos doutes, ces voix en nous qui cherchent les certitudes, les vérités validées, les faire taire et juste écouter le chant du monde, la mélopée de notre mystère. Revenir en permanence à nos sensations. Elles changent, bougent, évoluent. Rien n'est fixité. Tout est mouvement. Pensée ronde. Mouvement permanent. Bienvenue chez vous. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com, les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.